Bonjour la Méditerranée, bienvenue comme chaque semaine dans Cantara, le magazine d'actualité des deux rives de notre Méditerranée. Au micro, Thomas Brunet, lead de France Bleu RCFM à Ajaccio, et en direct de la capitale algérienne, Linda Bouadma d'Alger chaîne 3. Bonjour Linda.
Bonjour Thomas et bienvenue à nos amis de la Méditerranée dans ce nouveau numéro de Cantara.
Linda, tu nous présentes le sommaire de ce numéro de Cantara où il sera bien sûr question de la mort de Fidel Castro.
Oui, l'Algérie a décrété un deuil national de 8 jours en hommage à Fidel Castro. Les liens entre le père de la révolution cubaine et les Algériens étaient très forts. En Espagne, paradoxalement, les relations entre Franco et Castro étaient ambiguës. Ils partageaient toutefois un ennemi commun, les États-Unis. Les victimes des violations des droits de l'homme sous l'ancien régime étaient auditionnées en Tunisie par l'instance Vérité et Dignité. Ces auditions étaient publiques et télévisées.
56 ans après la construction du haut barrage d'Assouan sur le Nil, les Nubiens, dont les villages avaient été immergés, veulent aujourd'hui retrouver leurs terres. Femmes et religion, un débat sur ce thème s'est tenu durant 2 jours à Rabat. Nadira Belhoutout y était. Et Pierre-Louis Alessandri s'est intéressé, lui, à l'intelligence humaine, intelligence artificielle, un colloque qui était organisé à Bastia.
Cantara est le fruit d'une large coopération avec la chaîne 3 de la radio algérienne au micro Linda Bouadma, radio extérieure d'Espagne Imen Wanzar, France Bleu, RCFM, Pierre-Marie, Thomas Brunelli et Pierre-Louis Alessandri, chaîne Inter Rabat, Nadira Belhoutout et Mohamed Chefoui, radio Tunis, chaîne internationale Mayed Asili, radio Le Caire, Dina Abdelmajid.
Et notre première chanson, c'est toi qui nous l'as choisie, Linda, c'est une chanson algérienne.
Alors c'est une chanson en hommage à un très grand artiste de la chanson Chaabi, il s'appelle Amar Zahi, il nous interprète Esh Adbni, en hommage à Amar Zahi parce qu'il est en ce moment très malade. On écoute Esh Adbni.
اش عذبني لو ما جفاف زاد لي عاد زاد لي عاد زاد لي عاد زاد لي عاد اش صومني لو ما لقوت مرارك بالنادو اش صومني لو ما لقوت مرارك بالنادو اش ذبلني لو ما الحب نعاد ذاق لنعاد ذاق لنعاد ذاق لنعاد اش سهرني وما الروح ذاق لنعاد ذاق لنعاد ذاق لنعاد ذاق لنعاد اش هب النيل وما الحب قوات محناني اش هب النيل وما الحب قوات محناني فكها يا مجرب بالحب فكها يا مجرب بالحب.
Voilà, nous étions en Algérie et nous y restons. Fidel Castro est mort. Le chef de la révolution cubaine s'est éteint à l'âge de 90 ans. Adulé par les uns, haï par les autres, il aura incontestablement marqué l'histoire du XXe siècle. Fidel Castro était un ami de l'Algérie et pour lui rendre hommage, le président Bouteflika a décrété un deuil national de 8 jours. On écoute ton reportage, Linda.
Dès l'annonce du décès du père de la révolution cubaine, la toile en Algérie s'est enflammée. Les hommages à Fidel fusent. Les Algériens n'oublient pas le soutien des révolutionnaires cubains à leur propre cause et à celle de tous les peuples qui subissent la domination extérieure. Voici la réaction de Mohamed, chauffeur de taxi à Alger.
نصر ثورات عدير نصر حتى المصريين فنزويلا نصر الدنيا قايتك وعنده مشاكل هو الشعب تاعو يعني عالمه على جال المواقف تاعو مع ليز امريكان.
Fidel Castro a soutenu toutes les révolutions jusqu'au jour où il est tombé malade. Il a soutenu la révolution algérienne, il a soutenu l'Égypte, le Venezuela, tout le monde. Mais son peuple a souffert à cause de ses positions vis-à-vis des Américains. Nous, en tant qu'Algériens, c'est lui que nous soutenons parce qu'il a toujours été aux côtés de son peuple et avec tous les autres peuples opprimés par les Américains. Moins admiratif, Crimo, algérois aussi, décrit un personnage charismatique.
C'est un personnage assez charismatique et impressionnant et qu'il ait duré jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi incroyable. Et ça en dit long sur sa personne. Ça devait être quelqu'un qui croyait en beaucoup de choses. J'espère que sa carrière a été à la hauteur de ses objectifs.
Côté officiel, l'Algérie a décrété un deuil de 8 jours dès le lendemain de l'annonce du décès de Fidel Castro. Le président Abdelaziz Bouteflika a envoyé un message de condoléances dans lequel il a dit, je cite le communiqué présidentiel, « Avec sa disparition, je perds personnellement un ami et un compagnon de plus d'un demi-siècle. C'est aussi une grande perte pour le peuple algérien qui entretient une relation particulière avec El Comandante, faite de respect, d'admiration et d'affection mutuelle. Et sur cette relation particulière et les impressions des Algériens suite à l'annonce du décès de l'ancien président cubain, j'ai interrogé Nesrin Dahmoun qui a suivi ses réactions pour la chaîne 3. »
Alors, faut savoir, Linda, que dès l'annonce de la mort de Fidel Castro vendredi soir, la toile algérienne a été carrément bouleversée. Les Facebookers algériens ont évidemment posté toutes les photos qu'ils pouvaient trouver de celui qu'on surnomme El Maximo, notamment pendant ses années glorieuses, les années de révolutionnaire. Les photos avec son fameux cigare, les photos avec Che Guevara, et surtout ces photos, évidemment, portant le survêtement de l'équipe algérienne de football. Parce que faut dire que Fidel Castro et l'Algérie, c'est une longue histoire d'amitié. Par exemple, le 20 octobre 1962, l'icône de la révolution cubaine avait reçu à La Havane le président Ahmed Ben Bella, à peine l'indépendance de l'Algérie proclamée. À Alger, Fidel Castro a été reçu de manière triomphale en 1972. Le leader cubain s'était même offert une parade avec le président Houari Boumedine dans les rues d'Alger. Et la coopération algéro-cubaine a résisté aux nombreuses montagnes russes politiques qu'ont vécu les deux pays. D'ailleurs, l'Algérie bénéficie encore aujourd'hui du savoir-faire cubain en matière de santé, puisque des cliniques ophtalmologiques gérées par des médecins cubains connaissent un franc succès auprès des Algériens. Mais il faut aussi rappeler, Linda, qu'au-delà des liens qui lient Fidel Castro à l'Algérie, je crois que c'est surtout l'aura que dégageait le leader cubain qui plaît aux Algériens. C'est toute la dimension politique, révolutionnaire, anti-impérialiste qui nous parle beaucoup. C'est l'image du rebelle, du défenseur des plus démunis, le défenseur d'idéaux égalitaires face aux puissances occidentales. Fidel Castro, à sa manière, a rééquilibré la balance des pouvoirs selon les Algériens. Une image, certes un peu trop fantasmée, du leader cubain qui est donné comme l'un des rares opposants affirmés face à l'hégémonie des États-Unis, la politique américaine n'étant pas très populaire dans les pays arabes, dont l'Algérie.
C'était ton reportage, Linda, par rapport à la mort de Fidel Castro et ses 8 jours de deuil national décrétés par l'Algérie. Donc, il y a cette histoire d'amour entre l'Algérie et Fidel Castro, parce que là, il y a aussi un ennemi commun qui est l'impérialisme américain.
Oui, plutôt l'impérialisme américain, pas que, mais en fait, l'ennemi, si tu veux, ce que défend Castro et ce qu'a toujours aussi défendu l'Algérie, c'est les peuples opprimés. C'est ça qui les a unis. Mais il faut dire aussi que l'histoire entre Cuba et Alger a été un petit peu en dents de scie, mais vraiment légèrement. C'est que Fidel était mécontent quand il y a eu le coup d'État en 1965. Donc, il y a eu un froid entre l'Algérie et Cuba pendant ces années. Mais le président Houari Boumedienne a réussi aussi à établir des liens très, très, très forts avec Fidel Castro. Et en 72 ou en 73, il y a eu un bain de foule, justement ici à Alger, qui a témoigné de ces relations très, très fortes entre Cuba et Alger.
Est-ce que c'est une adhésion au personnage par rapport à la révolution cubaine, je dirais un soutien presque romantique, ou c'était un soutien fort à la politique mise en place par Fidel à Cuba?
Alors, si tu veux, les liens sont historiques parce que Fidel Castro et les révolutionnaires cubains ont soutenu la révolution algérienne. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très très important. Et bien, par la suite, évidemment, il y a un soutien à la politique cubaine dans la mesure où il a généralisé l'enseignement, où il a sorti vraiment après la révolution, il a sorti le peuple cubain de la pauvreté, et donc la médecine est gratuite, l'éducation est gratuite, même si avec l'embargo, donc Cuba n'a pas réussi à évoluer comme il fallait, mais le renforcement du service public et la politique socialiste est un soutien, je veux dire l'Algérie soutient cette politique socialiste.
Alors on va rester sur le même sujet et en parler de l'Algérie, on va parler de l'Espagne. Et là aussi il y a une relation très singulière entre entre l'Espagne franquiste et la révolution cubaine. Une relation qu'il faut envisager à partir de ce triangle, Madrid, Washington, La Havane. Franco était d'une génération marquée par la perte de Cuba en 1898 au profit des USA et des intérêts américains. La perte de Cuba est une blessure d'orgueil national en Espagne. Or, les barbus de Sierra Maestra font mordre la poussière aux Yankees et cela, bien entendu, ne déplaît pas à Madrid. On écoute le reportage d'Imano Hazard.
Aussi bien dans le message de condoléances du roi Felipe VI que dans celui du chef du gouvernement Mariano Rajoy, et outre le fait de souligner l'importance de Fidel Castro et de sa trajectoire au niveau international, on souligne aussi les liens étroits qui lient Cuba à l'Espagne et Castro à l'Espagne.
Admiré siempre mucho a España y ahora puedo decir algo más que la quiero. Algo más que la admiro. Quiero España. Sentía mi morriña natural, porque eso es heredado, por esta tierra de Galicia. Pero ahora, cuando regrese a Cuba, voy a sentir una morriña mayor.
J'ai toujours beaucoup admiré l'Espagne et à présent je peux dire plus. Je l'aime, plus même que je ne l'admire. J'aime l'Espagne. J'avais de la nostalgie naturelle parce qu'héritée pour cette terre de Galice. Mais maintenant, lorsque je vais retourner à Cuba, je vais ressentir une nostalgie plus grande encore. C'était en 1992, Fidel Castro visitait le village d'origine de son père, Lancar, près de Lugo, en Galice. Il y était invité ni plus ni moins que par Manuel Fraga, président de la région autonome, mais ex-ministre de Franco et fondateur du Parti conservateur. En principe, tout séparait les deux hommes, tout sauf leur origine galicienne. Toutefois, il y a aussi dans le parcours de Fidel Castro, en relation avec l'Espagne, des éléments qui attirent l'attention. À la mort de Francisco Franco, le gouvernement cubain révolutionnaire, décrète 3 jours de deuil. Un an plus tard meurt Mao Zedong. Aucun deuil n'est décrété à La Havane. Les dirigeants espagnols, bien qu'accueillant des dissidents cubains, ne rompent jamais les liens avec Cuba. Ignacio Ramonet, l'ex-journaliste du Monde, rapporte une réflexion de Fidel à propos de Franco. Fidel rappelle que le dictateur espagnol avait été marqué, comme toute sa génération, par la perte de Cuba en 1898 et par la brutale manœuvre de la puissance montante de l'époque, les États-Unis d'Amérique, pour déposséder Madrid. Franco, dit Fidel à Ignacio Ramonet, a dû grandir et être éduqué avec le souvenir de cette amère expérience. Et ce qu'a fait la révolution cubaine à partir de 1959, en résistant aux États-Unis, en se rebellant contre l'Empire et en le battant à Girón, a pu être vu par lui, d'une certaine manière, comme une revanche historique de l'Espagne. En définitive, les Cubains, de la manière dont nous avons su affronter les États-Unis et résister à leur agression, nous avons revendiqué les sentiments et l'honneur des Espagnols. Il n'y avait certes pas une histoire d'amour avec Franco, ne nie. La Havane accueillait, parfois employait, des communistes espagnols de tout premier plan comme Dolores Ibáruri, la Passionaria ou encore Enrique Lister, etc. Cet appui amena même l'ambassadeur espagnol en place durant la première année de la Révolution à provoquer de multiples incidents avec le gouvernement castriste. Après un de ces incidents, il est purement et simplement expulsé. Franco dépêche alors le ministre des Affaires étrangères espagnol avec cette consigne. « Vous êtes le ministre. Vous faites ce que vous jugez opportun. Mais avec Cuba, tout sauf la rupture. » Peu après la visite et le coup de pouce économique du président Eisenhower à Madrid, Franco n'en signe pas moins un accord commercial avec Cuba aux grandes dames de Washington. En 1962, Iberia maintient ses vols à La Havane. En 1964, des exilés cubains furieux contre Madrid attaquent à partir de leur hors-bord le cargo Sierra de Aranzazu. 3 marins espagnols sont tués, 6 blessés, on dénombrera 1500 impacts de balles. À partir de ce moment-là, ironie de l'histoire, la marine US escortera les bateaux espagnols dans la zone. Dès l'annonce de la mort du leader Massimo, dans le petit village de l'Ankara, le maire et les habitants se sont mobilisés. Ils réaffirment qu'ils veulent que la maison natale du père de Fidel Castro soit transformée en musée. Ils feront le voyage à Cuba pour proclamer Raúl Castro fils honorifique comme l'était son frère. Et la cousine encore vivante des Castro, une dame de 103 ans, a déposé au nom du village une couronne de roses blanches en l'honneur du cousin disparu. L'Espagne a été représentée aux funérailles de Fidel par le roi émérite Juan Carlos Ier par décision de la maison royale et du gouvernement conservateur. Et les protestations des élus libéraux de Ciudadanos n'y firent rien.
C'était le reportage de Imen Wanzar, justement qui met en évidence un petit peu, Thomas, cette ambiguïté dans les relations, on va dire, entre Cuba et l'Espagne, entre Fidel Castro et Franco. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que tu penses que vraiment c'était une grande histoire d'amour entre Franco et Castro ?
Ils sont complètement à l'opposé, il faut dire. Là, on a un Franco fasciste qui a écrasé les communistes, et puis de l'autre côté, on a le symbole du communisme en Amérique du Sud. Donc c'est un peu paradoxal. Mais là aussi, on revient au propos qu'on tenait tout à l'heure par rapport à l'Algérie, c'est que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc on sait que Cuba, son ennemi numéro un, c'était les États-Unis, et on sait que Franco aussi avait des relations assez tendues avec les États-Unis. Donc il y a ça. Mais ensuite, il y a le côté affectif, parce que Castro était d'origine espagnole, de Galice, il y a encore sa cousine qui a 103 ans, donc il va peut-être même faire le voyage jusqu'à La Havane pour rendre hommage à son cousin. Donc voilà, c'est ça l'histoire aussi. C'est plein de contradictions, c'est plein d'oppositions, c'est plein de paradoxes. Mais à un moment donné, on trouve toujours un lien, un film qu'il soit, entre les gens. Et là, c'était le cas entre Fidel Castro et le dictateur Franco. On va quand même, nous, rendre hommage à la révolution cubaine et plutôt au symbole de la révolution qui n'était pas Fidel Castro pour cette génération-là. C'était plutôt Che Guevara. Et donc, on va écouter cette chanson que nous chante Nathalie Cardone, Hasta siempre, comandante.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Hasta siempre, comandante, de Nathalie Cardone, et pour rendre hommage à Che Guevara, et on dira à la révolution cubaine. Et après l'Amérique du Sud, on passe à la Tunisie.
Oui, avec l'instance Vérité et Dignité qui a tenu en Tunisie les 17 et 18 novembre ses premières séances d'audition publique pour les victimes des violations des droits de l'homme. Ces auditions ont eu lieu sous une haute couverture médiatique. Elles ont été retransmises en direct sur plusieurs radios et chaînes télévisées. Les prochaines auditions publiques politiques auront lieu le 17 décembre prochain, date anniversaire du soulèvement populaire, conformément aux recommandations issues du Congrès national sur la justice transitionnelle. Une autre audition est prévue le 14 janvier 2017. On écoute le reportage de Meyad Assili.
Permettez-moi pour commencer de m'incliner devant la mémoire des martyrs de la Révolution et d'assurer leur famille de mes sentiments les plus fraternels.
Ce témoignage est celui de Gilbert Naqash, dirigeant historique de la gauche en Tunisie. Il a été lourdement condamné dans les années 60 à cause de ses activités politiques au sein du mouvement Perspective tunisienne. Gilbert Naqash a témoigné en public devant des millions de téléspectateurs qui attendaient cet événement historique depuis 2011.
Je voudrais associer à cet hommage tous les blessés de la Révolution. Ils ont payé de leur santé, de leur sang, d'une partie de leur corps souvent, des difficultés qu'ils continuent à subir aujourd'hui, en particulier parce qu'ils ne sont pas reconnus pour ce qu'ils sont, le fait de s'être levé avec les autres jeunes contre la dictature, l'absence de liberté, de perspective de vie. Merci à vous qui avez permis de vivre cette journée qui, à elle seule, compense de beaucoup des frustrations des 5 dernières années.
Pour la première fois en Tunisie, les victimes de violations des droits de l'homme entre 1955 et 2013 ont été auditionnées devant les caméras et les micros de la télévision et de la radio nationale. Ces auditions publiques, qui comprenaient aussi des témoignages des mères des martyrs de la Révolution tunisienne, sont organisées par l'instance Vérité et Dignité, une instance de l'État instituée par la loi relative à l'attribution et l'organisation de la justice transitionnelle en Tunisie. Elle ambitionne de démanteler le système autoritaire et de faciliter la transition vers un État de droit, en révélant la vérité sur les violations du passé, en déterminant la responsabilité de l'État dans ces violations, en demandant aux responsables de ces violations de rendre compte de leurs actes, en rétablissant les victimes dans leurs droits et dignité, en préservant enfin la mémoire et en facilitant la réconciliation nationale. L'objectif de ces sessions était donc d'informer le public large sur les types de violations subies par les victimes et réconcilier les Tunisiens avec leur passé.
Je ne veux pas innocenter les tortionnaires et tous ceux qui sont responsables de la répression et des formes précises de cette répression. J'espère que ceux qui sont encore vivants, ceux qui concernent ceux que j'ai connus, finiront par répondre de leurs actes devant la justice, au moins devant la justice transitionnelle, ce qui permet de penser que on ne les torturera pas pour qu'ils les fassent avouer.
Jamel Barakat est le frère de Faisal Barakat, opposant islamiste, mort sous la torture en 1992.
J'ai passé 4 mois dans la cave du ministère de l'Intérieur. Pendant ces 4 mois, je n'ai pas vu le soleil. Quand je suis sorti au terme de ces 4 mois, la peau de mon visage a éclaté aux rayons du soleil. J'avais beaucoup de cernes autour des yeux. Ceux qui connaissent ce centre de détention se souviendront des escaliers qui mènent à la cave et de la porte qui se trouve au bout de ces escaliers. Une porte avec une sonnette. Un agent venait tous les jours chercher des prisonniers qui sortaient en marchant et qui revenaient dans des draps. Quand cet agent sonnait à la porte, chacun de nous pensait qu'il venait pour lui, que c'était son tour. Imaginez la terreur d'une personne qui passe des mois dans cette cave et qui entend cette sonnette 20 et 50 fois par jour. Mon cœur tremblait à chaque fois, même après avoir quitté ce lieu. Depuis 20 ans, à chaque fois qu'un policier passe devant moi, même un agent de la circulation, tout mon cœur tremble.
Plus de 10 000 séances d'audition ont été organisées à huis clos par l'instance Vérité et Dignité sur un total de plus de 65 000 dossiers déposés. Ces auditions publiques représentent, selon l'instance, un pas historique sur la voie du processus de la justice transitionnelle et de la restitution d'une partie de la mémoire nationale. L'instance espère qu'au terme de son mandat, des procès seront tenus et les préjudices subis par les victimes réparés.
Voilà, des procès auront lieu pour punir les tortionnaires. C'est ce qui ressort un peu de ces auditions qui ont eu lieu en Tunisie avec des témoignages émouvants. On ne peut pas ne pas faire le lien avec les reportages précédents par rapport à Fidel Castro, par rapport aussi à Cuba où il y a eu beaucoup de gens qui sont exilés, hein, qui sont partis notamment en Floride et qui ont critiqué durement la politique de ce qu'ils appellent le dictateur Fidel Castro. Là, on en est à la période Ben Ali et puis d'avant la révolution. Ben, il faut qu'un jour les tortionnaires payent, hein, ma chère Linda. Et je crois que là, le processus lancé par la Tunisie est un processus qui va réconcilier un peu les Tunisiens avec leur histoire.
Alors pour le moment, le processus en Tunisie, c'est pas encore des procès, c'est pas rendre justice, c'est-à-dire... Là, il est question de témoigner des souffrances que beaucoup de Tunisiens ont subies à cause de la torture. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir y aller ensuite vers des procès? Je ne sais pas, mais c'est assez délicat quand même.
Oh, mais on va y arriver parce que bon, c'est ce qui s'entend hein, dans ce reportage, c'est que l'objectif, en tout cas la perspective de procès futur est annoncée. Mais c'est vrai, mais déjà... Je dirais de laver son linge sale en famille pour le peuple tunisien, c'est quand même un pas en avant, un pas important qui est franchi.
L'essentiel, c'est que les gens se réconcilient et apprennent à vivre ensemble, ce qui n'est pas chose aisée déjà. Allez, on continue notre cantara et on va en Égypte, Thomas, avec la construction du haut barrage d'Assouan en 1950. Se célèbre Sedd El Ali. Les villages, les champs, les dateries et les monuments antiques étaient inondés plusieurs mois dans l'année. Pour que l'Égypte continue à vivre, il fallait que les Nubiens se sacrifient. Ils ont été obligés de quitter leur maison. Ils avaient été indemnisés à l'époque. Mais aujourd'hui, les Nubiens veulent retrouver leur terre. Pourquoi ont-ils attendu 66 ans? Réponse du docteur Samira Abbès, secrétaire général de l'Union des journalistes africains, au micro de Mouna Farid.
Les territoires nubiens de Khourkandi ont été mis en vente dans le cadre du projet d'un million de fêtants, chose qui a soulevé non seulement la protestation, mais aussi la colère des citoyens nubiens, de manière à les pousser à mener un sit-in et à bloquer l'autoroute à Abu Simbel, à Assouan. Le Parlement, l'État essaye de contenir la crise, les points sur les i avec Dr Samir Abbès, secrétaire général de l'Union des journalistes africains.
Notre problème est bien connu par tout le monde en fait. Nous avons demandé le retour depuis les années 70. C'était avec le président Sadat. Le président Sadat nous a octroyé des terrains et nous a créé des associations agricoles qui avaient des objectifs différents. Et à partir de ces associations agricoles, d'autres associations ont été créées. Et à côté de ces associations, de nouveaux villages aussi qui ont été créés comme le village Salam. Et des associations aussi de pêche pour la culture piscicole ont été aussi installés à l'époque. C'était pendant les années 70 avec le président Sadat. Et même à l'époque, le gouverneur d'Assouan, Ahmed Taha, il a consacré à peu près 600 fêtons pour ces associations et ils ont commencé à les cultiver. Et juste après la mort de Sadat, il y a eu une détérioration de la situation. Alors il y a eu vraiment des combats et des luttes contre les Nubiens, des gens qui étaient chargés de les assister. Et il y a eu une résolution pour la dissolution de ces associations. Et puis ils ont commencé à vendre et à distribuer tous les terrains qui étaient sur place. Et ensuite avec Moubarak, on a eu des promesses, mais personne n'accomplissait ces promesses. Et puis après, avec le président Al-Sisi, et bon, il a pris des initiatives très importantes parce que, partant de cette initiative, il y a eu l'article 236 de la Constitution qui stipulait le retour des Nubiens à leur village, alors territoire, mais en dessus du Nil, bien sûr, et en gardant les mêmes noms des anciens villages.
Oui. Il s'agit de combien de villages?
C'est plus d'une quarantaine.
Oui.
Et là, vraiment, le problème actuel, c'est quoi? C'est, il y a eu une partie qui s'appelle Khourkandi, qui était dans le cadre des terrains qui devait être
exposé
au vote, dans le cadre d'investissement des 1 million de francs. Là, les gens se sont révoltés. Et ces trois villages, en fait, c'est-à-dire cette partie qu'on voulait vendre, relève de trois villages. Armenna, Toshka et Abu Simbel. Trois villages, mais de plus d'une quarantaine. C'est-à-dire, ça, c'est une partie de ces villages. Donc, mais si on commence à vendre, à s'emparer de trois villages, ça va continuer. Donc, c'est ça vraiment le vrai problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut, en fait? Il faut mettre en application l'article 236 de la Constitution et puis créer un organisme supérieur ou suprême pour la reconstruction et le développement de la Nubie. Ça, c'est très important. Les Nubiens ne veulent pas du tout se séparer. Les Nubiens ont toujours été des Égyptiens et ils sont toujours des Égyptiens et ils seront toujours des Égyptiens.
Voilà, la parole a été donnée aux Nubiens grâce au reportage de Mona Farid et de Dina Abdelmeguide. Dina qui est en direct du Caire. Bonjour Dina.
Bonjour Thomas, bonjour Linda.
Bonjour Dina.
Alors il faut que tu nous expliques comment les Nubiens vont reprendre leurs terres qui sont inondées depuis 60 ans.
En fait, c'était inondé avant le barrage d'Assouan. Mais quand on a construit le barrage d'Assouan, c'est fini. C'est devenu des terres agricoles, très bien. Mais les terres étaient délaissées. Mais récemment, le président, c'est-à-dire il a promulgué un décret présidentiel consacrant 1,5 million de fédans, y compris des terres dans la région de Nubiens, de Toshka, dans les déserts occidentaux, et à un nouveau projet de développement appelé Toshka. Et c'est là que on a suscité la colère des Nubiens qui voulaient récupérer leurs terres, puisqu'elles sont devenues habitables.
Alors, si on comprend bien, est-ce qu'on leur a donné d'autres terres, Dina, ou alors c'est les mêmes terres, mais cette fois avec quand même un accompagnement législatif, si tu veux, pour qu'il y ait une assise juridique pour la reprise de ces terres.
Il y a déjà la Constitution depuis 2011 qui stipulait le retour des Nubiens à leurs terres. Voilà, alors, basant sur cet article-là, les Nubiens ont demandé, ils ont quatre revendications en fait, c'est de sortir les deux régions de Toshka et de Karabesken, leur région, du cadre du projet du président de développement des terrains, et la mise en application de l'article 236 de la Constitution garantissant le retour des Nubiens à leurs terres, et la promulgation d'une loi sur la Nubie pour procéder au retour des Nubiens et enfin la révision de la décision 444 qui était consacrée à la nouvelle répartition administrative de la Nubie.
Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir?
Oui, en fait, déjà, ils ont parce qu'il y avait une manifestation, il y avait un sit-in, ils ont fermé, ils ont bloqué les rues. Alors, c'est fini, ils ne bloquent plus, mais ils ont décidé que la semaine prochaine, il y aura une réunion avec entre les représentants de la Nubie et avec le premier ministre Chérif Ismaïl et le président du Parlement pour discuter cette affaire.
Dina, à la fin de ton reportage, on dit les Nubiens ont toujours été égyptiens, ils sont égyptiens, ils seront égyptiens. Après, ça a été remis en cause leur appartenance à l'Égypte.
En fait, parce que la Nubie, elle était comme si c'est une ville à part. Ils ont un langage différent, tout à fait différent, ce que vous allez d'ailleurs écouter de la chanson nubienne que je vous ai choisie. Donc ce n'est pas de l'égyptien, ce n'est pas de l'arabe, c'est un peu un mélange, c'est un dialecte propre à eux. Donc ils se sentaient un peu différents de l'Égypte. Toute l'Égypte parle la même langue, à part ce dialecte nubien.
Comme tu nous l'as lancé, on va écouter dans quelques secondes une chanson nubienne que tu nous as choisie. Merci Dina, tu étais en direct du Caire.
Merci Thomas, merci Linda. Allez, au revoir, à la semaine prochaine.
Au revoir Dina, à la semaine prochaine.
Chose promise, chose due, on écoute la chanson nubienne que nous a choisie Dina Abdelmé. Estalelo, argadelo, nubaharim polkiye kulla, ubatarso, yamatikso, esitolo, ashirin kelo, ashirin alle maston kelo, apuyarenado, tenado tulo, tiganamo. Vous écoutez Kantara, le magazine de la Méditerranée. Minnaïa menaïa, Voilà la chanson nubienne que nous a fait écouter Dina Abdelmeguide. Et après l'Égypte, nous passons au Maroc.
Oui, alors au Maroc, où on parle de la femme et de la religion, durant 2 jours, un débat sur ce thème s'est tenu à Rabat. Des universitaires marocains, irakiens, pakistanais, tunisiens, yéménites et français y ont participé. Ce débat a permis un échange croisé sur la condition des femmes. Le colloque était organisé par l'ONG Damir Mouvement Citoyen et la Fondation Frédéric Nouman. Nadira Belkhotot y était pour Kantara. On écoute son reportage.
Femmes et religion, c'est un sujet débattu sur plusieurs thématiques, comme celle de l'héritage entre percepts islamiques et la pratique de l'égalité entre le texte divin et la réalité humaine, et d'où l'intérêt et la complexité en même temps du sujet, et d'où la simplicité de ma question pour vous, monsieur Abdelsamad Dielmi. Vous êtes sociologue. Est-ce que l'égalité est possible?
Je me dis qu'on est en train de passer de la notion d'équité ou de justice qui est concédée, qui est conçue par l'islam. La femme a certains droits. Ces droits sont différents de ceux de l'homme, n'est-ce pas? Mais ces droits sont inégaux. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits dans la théorie islamique littérale. Par exemple, la femme hérite la moitié, le témoignage de la femme, c'est le... il faut 2 femmes, l'homme peut répudier, etc. Et la justice, ce n'est pas de donner les mêmes droits, c'est de donner à chacun les droits qui lui sont dus, qui lui sont prescrits dans le texte coranique et dans la sunna également. Donc l'équité veut dire donner à chacun les droits en fonction de son sexe. Et tous les réformistes musulmans disaient qu'il faut appliquer cela. L'idéal serait d'appliquer cela. L'équité et la justice ne sont plus suffisantes.
Il y a une transition. On est passé de la femme au gender. Est-ce que c'est un prélude à la réforme?
L'égalité de genre, l'égalité dans les droits entre les femmes et les hommes est-elle possible au nom de l'islam, avec l'islam, pas contre l'islam, d'universitaire?
Et est-ce que cette égalité est possible?
Qu'il faut la produire. C'est une question de volonté, pas seulement scientifique. Bien sûr, les chercheurs doivent fournir un effort pour relire, pour réinterpréter, pour produire un islam nouveau, un islam adapté à la demande de l'égalité. Donc c'est une volonté scientifique qui est là. Il faut qu'il y ait cette volonté scientifique de la part des oulémas dans tous les domaines, sociologie, psychologie, histoire, économie, pour produire un islam égalitaire.
Dans ce colloque, on a également parlé du rôle de la femme dans les zones de conflit. Mohamed Khan, vous êtes un Pakistanais. Vous êtes président de la Fondation des survivants aux attaques à l'acide, une ONG qui a dénoncé les attaques des islamistes contre les femmes non voilées, des attaques pratiquées à l'acide. Quelle est la situation aujourd'hui de la femme pakistanaise par rapport à la religion et aux droits coutumiers?
Il y a beaucoup, beaucoup de difficultés, mais il est vrai aussi que les Pakistanaises, elles sont très, très dynamiques et elles travaillent pour changer ça. Depuis quelques années, on a de plus en plus de femmes qui vont à l'école, qui sont donc lettrés de plus en plus, même si ça reste pas suffisant. Activités politiques, on a de plus en plus.
Quels sont les droits pour lesquels elle doit toujours combattre?
Selon la Constitution, elle a tous les droits comme tout le monde, parce qu'il n'y a pas de distinction entre les sexes pour avoir ses droits de citoyen. Mais en ce qui concerne d'autres ordonnances, des lois qu'on a eu un dictateur et qui a mis en place, c'est des lois qu'on appelle hudud, surtout tout ce qui est les relations entre femmes et hommes. Ça, c'est très, très difficile pour les femmes. Mais là, il y a eu quand même des améliorations.
La question de l'héritage, par exemple?
Comme dans tous les pays musulmans, je pense que c'est la même chose ici et ailleurs. Mais souvent, même la moitié, elles n'ont pas. Donc, quand elle va en cours de justice, elle l'a toujours et c'est sûr qu'elle peut l'avoir. Mais c'est vrai que ça envenime des relations avec les frères et sœurs, les familles. Donc, il faut travailler sur la société pour qu'elle accepte mieux et plus facilement les droits de la femme qui existent.
Femmes et religion, c'était le débat qui s'est tenu à Rabat avec ce reportage signé Nadira Belkhotot. Et on s'aperçoit, Linda Boidma, qu'il y a du boulot encore et que l'égalité entre les hommes et les femmes dans certaines parties du monde n'est pas encore acquise.
C'est vrai qu'elle n'est pas encore acquise, mais il faut reconnaître quand même que le débat sur cette question-là, sur une question très délicate, la place de la femme dans la religion et la question de l'héritage, images, il faut reconnaître que le Maroc est très très avancé par rapport aux autres pays arabes, aux autres pays musulmans sur cette question. Le débat est public aujourd'hui, c'est toujours une avancée. En tout cas, ce sociologue Abdelsamad Dialmi met quand même le doigt sur quelque chose d'important à mon avis, où il dit que il y a équité et justice, mais il n'y a pas égalité dans les droits. Là, ce qu'il dit, il dit qu'il faut produire, et c'est ça qui est intéressant, produire un islam égalitaire. Ça veut dire qu'il invite les musulmans, qu'il invite les savants, qu'il invite la société à réfléchir, à travailler, parce que les lois des pays musulmans aujourd'hui sont inspirées d'une lecture et d'une interprétation de l'islam qui date de plusieurs siècles, alors qu'aujourd'hui on est dans une autre époque et nous sommes tenus à inventer, à produire une autre législation, même si elle est inspirée de la religion.
Et on voit que les femmes se battent, on a entendu ce témoignage du Pakistanais, tout le monde se bat du côté des femmes et il faut bien entendu que les hommes aussi soient solidaires pour que cette égalité existe et que l'on donne la justice et l'égalité à tout le monde et tous les droits à tous. On en traite souvent ce sujet sur Kantara, mais on le traitera encore et encore du chemin à faire et j'espère qu'un jour on arrivera à cette égalité. Allez, après le Maroc et ce beau sujet de Nadira Belroutout, on va parler de l'intelligence et notamment de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle. C'est un débat qui a eu lieu lors du festival du film des cultures méditerranéennes à Bastia, le festival Artemar. Il a été organisé et a réuni d'éminents spécialistes comme Pierre-Marie Liedo, qui est neurobiologiste chargé de recherche au CNRS et qui est à la tête du département des neurosciences à l'Institut Pasteur à Paris. On écoute le reportage de Pierre-Louis Alessandri.
Intelligence humaine, intelligence artificielle, quel avenir ? Telle a été la question posée. Il ne faut pas oublier que le cerveau possède une capacité de transformation à plusieurs échelles, de temps et d'espace, et son dynamisme provient de sa capacité à produire. Et il produit aussi une intelligence artificielle. C'est en 1970 que naît la neuroscience. Et comme le déclare Pierre-Marie Liedo, on a un couteau suisse à la place de notre cerveau, expressive image de ses fonctionnalités.
C'est un organe qui échappe au déterminisme génétique et qui finalement fera ce qu'on veut bien faire avec, c'est-à-dire la lecture. Il n'y a pas de gène, il n'y a pas de circuit de la lecture. Simplement, ce sont des neurones qui, normalement, naturellement, servent à détecter des formes dans la nature ou des visages. Et qu'ensuite, on vient avec la culture pour dire à ce cerveau, il va falloir que tu apprennes à lire. Voilà, donc c'est un principe simple qui est que ce cerveau se nourrit du mode opératoire que l'on a avec. Mon métier, c'est de couper des cerveaux en tranches, mais on s'aperçoit qu'on peut avoir des cerveaux de 85 ans dans lesquels on va trouver des neurones qui ont 15 ans, quoi, des neurones d'adolescents. Et en revanche, il peut nous arriver malheureusement aussi d'avoir des cerveaux qu'on débite en tranches et dans lesquels on va trouver aucune création de nouveaux neurones, et ce sont des cerveaux de 30 ans. Et quand on regarde un petit peu quel était le mode opératoire de ces deux personnes, bien la première se nourrissait toujours du changement, c'est-à-dire était toujours en quête de comprendre, assoiffée d'apprendre de nouveaux principes, de nouvelles lois, alors que le second cas de figure, la personne s'était retranchée sur la routine, sur les stéréotypes.
Y a-t-il alors un lien entre la taille du cerveau et son état réel, qu'il soit dans une situation de dégénérescence ou de puissance cognitive ? La question se pose, mais aujourd'hui, on arrive au cerveau connecté.
Malheureusement, il y a des maladies qui font que quand on regarde avec l'imagerie, on s'aperçoit que le cerveau est extrêmement rabougri. On rappelle que le cerveau d'Einstein faisait à peine 1,1 kg, alors que le cerveau moyen fait 1,3 kg. Donc il n'y a pas de relation entre taille du cerveau et puissance cognitive, puissance de calcul du cerveau. En revanche, il y a une loi qu'on trouve dans la nature qui veut que plus on vit avec un groupe complexe, nombreux, et plus la taille du cerveau sera grand. On va pouvoir sortir du corps des fonctions cognitives, externaliser des choses que normalement je devais faire moi-même en apprenant des numéros par cœur. Je dois avoir confiance et je vais déléguer cette mémoire à mes objets connectés. Et en revanche, je vais comprendre, essayer de comprendre ce qui nourrit mon cerveau, quelles sont les caractéristiques de ce cerveau, les productions d'émotions, l'altérité, toutes ces fonctions qui sont le propre de l'humain. Donc l'espoir, c'est justement de déléguer des fonctions qui était autrefois tenu dans notre cerveau et que l'on va pouvoir maintenant transmettre à des puces en silicone ou des algorithmes.
Les nouvelles technologies sont un moyen de voyager dans l'espace et dans le temps et elles prennent dans notre vie une importance qui est de plus en plus grande. La mémoire artificielle risque-t-elle alors de remplacer la mémoire sémantique ?
Grâce à l'écriture cunéiforme. Eh bien, certes, c'est peut-être moins d'efforts pour mon cerveau, mais en fait, ça a permis justement l'émergence de ce cerveau social, c'est-à-dire de construire des villages et d'apporter de l'aide aux plus faibles, de stocker du grain pour qu'il y aura des jours où on en aura besoin. Voilà. Donc c'est parce que j'ai pu télécharger de l'information et me débarrasser de ce qu'on pourrait qualifier de la contingence pour que finalement je puisse prendre les chemins dits de la liberté.
L'intelligence artificielle est-elle alors une copie du cerveau humain ? Elles œuvrent en tout cas, toutes les deux, pour le même but, la liberté.
L'intelligence au service de la liberté, on l'espère, on souhaite en tout cas. C'était le reportage signé Pierre-Louis Alessandre. Alors, il y a un truc qui me choque un peu, parce que de couper les cerveaux en tranches, bon, Linda, ça, c'est un peu inquiétant.
Mais ce qui me choque, c'est qu'on aille chercher l'intelligence. Je ne sais pas si l'intelligence est logée dans le cerveau. Moi, j'ai des doutes là-dessus. Il y a quelque chose d'autre. C'est vrai que les scientifiques essayent de créer des appareils et ils vont chercher ce côté humain quelque part dans le corps. Je ne sais pas s'ils arrivent à le trouver. Ce dont les mystiques parlent, ce dont la psychanalyse parle, je ne sais pas si on peut le loger quelque part, et en tout cas peut-être pas au cerveau, à mon avis. Moi j'ai des doutes.
Allez, une chanson marocaine que tu nous présentes, Linda.
Le titre de la chanson marocaine est Cheibra, ce qui veut dire quelqu'un qui a les cheveux blancs, et c'est une chanson qui est interprétée par Moud Assad.
Ayli ayli ou chabra, sayli ayli ala walou, ayli ayli mkain bas, ayli ayli rdbalou. Ayli ayli ou chabra, sayli ayli ala walou, ayli ayli mkain bas, ayli ayli rdbalou. Kenna ou kentou.
Comme chaque semaine, notre agenda culturel, concert au profit du service des soins palliatifs de l'hôpital Eugénie à Ajaccio, organisé par l'association Astrada 18. Les chanteuses Diana Zalicetti et Céline Cadeo seront au programme jeudi 8 décembre à 21h au Palais des Congrès. Les billets sont en vente à l'office du tourisme d'Ajaccio et sur place le soir du concert. Et l'argent recueilli sera versé aux soins palliatifs de l'hôpital Eugénie.
La 7e édition du Festival international du cinéma d'Alger dédié au film Engagée est organisée jusqu'au 8 décembre. Elle sera marquée par la projection de 17 films. Cette 7e édition dédiée à la mémoire du leader cubain, on y revient, Fidel Castro, décédé le 25 décembre, sera marquée par la projection en avant-première du film Ouled Mokran, du réalisateur Amour Hakkar, seul film algérien participant à la compétition officielle dans la catégorie fiction.
On savait l'influence qu'a eu l'art africain et océanique sur la peinture, les gravures et les sculptures de Picasso, mais voilà qu'à travers une exposition qu'accueille actuellement le Musée National d'Art de Catalogne, on découvre la grande influence de l'art roman. On découvre l'inspiration que produit chez Pablo Picasso l'art des gargouilles des églises et cathédrales ou les sculptures pas toujours pieuses du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Medina Art Gallery à Tanger accueille jusqu'au 23 décembre une collection de toiles intitulée Les couleurs de la lumière de l'artiste peintre Saïd Hbicha. Saïd Hbicha réussit à restituer la beauté du Maroc et la richesse de son répertoire esthétique. L'artiste lauréat de la faculté des arts d'Amiens appartient à l'école réaliste du peintre Gustave Courbet.
En marge du 16e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Antananarivo, à Madagascar, les chefs d'État et de gouvernement ont désigné les pays hôtes des deux prochains sommets de la francophonie, l'Arménie comme hôte de la 17e édition de 2018 et la Tunisie comme hôte de l'édition 2020. Cette décision a été prise à l'unanimité par les pays participants.
Le sculpteur Hessam Darwish expose à la galerie Al-Mansar au Caire plusieurs sculptures en bronze inspirées de la mère nature. Il s'inspire du blé, de la fève et des multiples herbes pour innover ses formes et ses compositions. Darwish, né dans le delta égyptien, a été depuis toujours influencé par la splendeur sauvage et par les formes végétales, dont notamment les oliviers. L'exposition dure jusqu'au 5 décembre.
Pour terminer, une chanson tunisienne qui parle du mouvement social des bassins miniers de 2008. Ces protestations, qui avaient été la première étincelle de la révolution tunisienne, ont éclaté le 5 janvier 2008 et ont été réprimées par un blocus de la région durant 6 mois. La chanson a pour titre Redaïef 2008. Elle est chantée par Bandir Man. Redaïef est le nom de la ville où ont eu lieu ces protestations.
كل واحد في سحر السابع تصحاح دم وحبار وطابع في ورقة محضة سيد البشير خريف الرح شوف حالي ردايف الدقلة فعرة جيلها هزوها من حيلها باعوها بالدينار وعلى سرد القنطار سيد البشير خريف قرح شوف حال رديف والدقلة فعرة جيلها.
Et voilà, nous arrivons au terme de notre Cantara de cette semaine. Cantara est une coproduction entre Radio Le Caire, Radio Extérieure d'Espagne, RCFM, chaîne Interrabat, la chaîne 3 de la radio algérienne et Radio Tunis, chaîne internationale. Ici à Alger, Thomas, j'ai été accompagné par Mohamed Sebiet.
Et ici à la Technique Ajaccio, il y avait Stéphane Casalongue. Avant de se quitter, sachez que vous pouvez consulter notre page Facebook pour retrouver tous nos reportages avec des photos à l'appui et puis pour écouter ou pour réécouter notre magazine, votre magazine Cantara. Ce Cantara est donc terminé. Merci de l'avoir suivi. Au revoir Linda.
Au revoir Thomas. À la semaine prochaine. Au revoir à tous.
Au revoir à tous.